Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouvel épisode, on a tendu notre micro à Marie-Paul. Marie-Paul a 74 ans. Il y a 3 ans, on lui a diagnostiqué une trachéobronchomalacie, une maladie qui occasionne une réduction de plus de 50% du calibre des voies aériennes à l'expiration. Quelques mois plus tard, à la suite d'une intervention, elle a été placée 3 semaines en coma artificiel. Le coma, c'est quelque chose de très mystérieux, de carrément fascinant. Qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau de quelqu'un qui le vit? Est-ce qu'on sait qu'on est placé dans le coma? Est-ce que le temps passe plus vite ou plus lentement? Est-ce qu'on souffre? Est-ce qu'on a peur? C'est tout autant de questions que ceux qui ont eu la chance de ne pas l'expérimenter peuvent se poser. On a donc choisi de demander à Marie-Paul, qui a répondu avec force, douceur et franc-parler. Et comme vous l'entendrez, Marie-Paul est une invitée un peu à part pour nous, et surtout particulièrement chère à mon cœur, puisque Marie-Paul... Coucou mamie!
Coucou ma chérie!
C'est ma grand-mère. Petite mise en garde, cet entretien a été enregistré avant le gros de la deuxième vague de Covid-19, avec des masques, des micros fraîchement désinfectés, dans le respect des gestes barrières, tant pendant l'entretien qu'en évitant au maximum les risques pendant les jours qui l'ont précédé. Nous ne pouvons que vous inviter à être prudents avec tout le monde, mais d'autant plus avec les personnes à risque de votre entourage. Même si c'est dur, appelez-les au lieu de leur rendre visite, ou mettez-vous en quarantaine forcée avant d'aller les voir. Même si c'est dur, bis, gardez bien vos distances. Et maintenant, place au déclic. Coucou mamie!
Coucou ma chérie.
Il faut que tu rapproches un peu le micro, s'il te plaît.
Coucou ma chérie.
C'est beaucoup mieux, merci beaucoup. Comment ça va?
Ça va.
Ça va bien?
Ça va bien. Si ça continue comme ça, c'est le pied.
Donc avant de parler de, du déclic, même si c'est un déclic un peu particulier qu'on aborde aujourd'hui. Ah, faut pas que tu colles le micro parce que sinon ça fait...
D'accord. À la bonne distance, comme ça.
Un tout petit peu plus près.
Comme ça.
Là, c'est parfait.
D'accord, je bouge plus.
T'as le droit de bouger quand même, au pire, je t'en prendrai. Ouais, donc ton déclic, il est assez particulier parce que, bon, on y reviendra plus tard. Mais donc avant de parler du déclic, on va remettre un peu de contexte. C'est-à-dire, avant de tomber malade, t'avais déjà eu des problèmes de santé ou t'avais plutôt une...
Alors, des problèmes de santé, oui, puisque j'ai toujours été soignée pour l'asthme. Mm-hmm. D'ailleurs, la dernière fois que nous sommes allés à Saint-Denis, j'ai trouvé une boîte que je n'avais encore pas ouverte, qui concernait ma mère. Et dans cette boîte, j'ai trouvé un... Alors, vous, c'est un carnet de vaccination. Moi, c'était un carton de vaccination.
OK.
Et sur ce carton, il était noté... Alors, donc, c'est tous les mois, ma mère m'emmenait dans une salle où il y avait un médecin, où on faisait la pesée, enfin, le médecin ausculté. Et plusieurs fois, j'avais été vue pour des bronchites, problèmes. Et à l'âge de 6 mois, j'ai vu constater qu'ils avaient marqué asthme.
Ouais.
Donc, et c'est vrai, j'ai toujours... Alors, de 6 mois à 1 an, j'ai dû faire de l'asthme, d'après ce qu'on m'a dit, parce que je ne m'en souviens pas, n'est-ce pas? Et ensuite, ça s'est reproduit... Alors, j'étais souvent gênée, des gros rhumes, on va dire... Alors, mais pas vraiment des problèmes respiratoires, mais j'ai vraiment... tous les hivers, j'avais quelque chose. Mmh. Et puis, quand je me suis trouvée enceinte, là, j'ai refait ce qu'on a appelé des crises d'asthme.
Ouais.
Donc, c'était assez fréquent. J'ai eu une vie... alors, c'est plus d'adolescente, puisque j'avais une vie de femme. Ouais. Mais entre 17 et 20 ans, c'est vrai que c'était très compliqué... Je faisais des crises d'asthme tout... Enfin, j'étais bien 15 jours, je faisais une crise d'asthme pendant 15 jours.
D'accord.
Donc, on m'a toujours soignée pour l'asthme. Ceci dit, ça a duré pendant quelques temps, où c'était vraiment intense. Après, ça s'est un peu calmé. Et là, depuis quelques années, c'est vrai. Alors, on me soignait, soi-disant que c'était une rhinopharyngite, trachéo, je sais pas quoi, trachéite. Enfin bon. Mais à chaque fois, ils me donnaient un traitement antibiotique pour l'asthme. Jusqu'il y a 2 ans où il a été décelé la trachéobronchomalacie. Mais auparavant, donc j'ai peut-être ça depuis longtemps.
Ouais.
Mais ça a été très difficile à déceler. Apparemment, je ne suis pas la seule à qui ça arrive.
C'est un très long diagnostic, on soigne pour l'asthme. C'est un très long diagnostic. C'est un peu comme les endométrioses où les gens ne sont pas forcément diagnostiqués. On leur dit que c'est
voilà, une douleur de règles. Un peu, oui.
Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est empiré?
Ça va faire 3 ans, je toussais beaucoup. Une toux rauque vraiment désagréable. Et je suis allée voir, parce que notre médecin traitant partait en retraite, je suis allée voir le gastro-entérologue de l'hôpital que je connais bien. Et comme j'avais une hernie atale, je lui dis, innocemment, je lui dis, bon, je tousse, j'ai une toux rauque.
C'est quoi une hernie atale?
Une hernie atale, c'est une hernie que tu as à l'estomac.
D'accord.
Souvent, c'est quand tu fais des excès. Non, j'exagère, parce qu'il y a des gens qui ne font pas d'excès.
Mais puis toi, tu ne faisais pas tellement d'excès
Quand j'étais jeune?
Quand tu étais jeune, ok. Mais non, mais depuis quelques années, vous étiez assagie avec ton mari?
Non, pas de... on va dire depuis une dizaine d'années, on est plus raisonnable. Mais avant, non, on faisait la fête souvent quand même.
Des bons vivants.
Voilà.
Ok, donc hernie...
Il y a un monsieur une fois qui m'a dit que j'étais une épicurienne.
Mais exactement, mais c'est ça qu'il faut se dire.
Donc, je vais donc voir ce gastro-entérologue et je lui dis, c'est peut-être dû à l'hernie. Il me dit, ça peut, mais c'est peut-être pas que. Hein. Mm-hmm. Alors, il n'y croyait pas d'ailleurs. Donc, c'est lui qui m'a donné tous les examens à faire, scanner des poumons, radio des sinus, et les oreilles, enfin, tout un tas de trucs.
Ouais.
Tout était normal, sauf le scanner. Quand je suis allée voir le pneumologue, il m'a dit, bon, vous avez quelque chose. Je ne vous dis pas que c'est un cancer, mais vous avez quelque chose de sérieux. Bon.
Et là, tu t'es sentie comment à ce moment-là?
À ce moment-là, encore pas trop. Ça allait.
Ouais.
C'est quand j'ai passé la fibroscopie. Et j'y allais vraiment, pour moi, c'était rien. Hein. Donc, déjà, ça, fibroscopie, ce n'est pas agréable du tout. Mais surtout, c'est ce qu'il a découvert... Il disait à son assistante, vous voyez, les poumons ne se soulèvent pas, donc il y a un gros souci. À l'époque, ils n'ont pas vu que la trachée était dilatée, mais les poumons ne fonctionnaient pas. Et donc, c'est lui qui a pris le rendez-vous avec le professeur. Et vous avez... c'est pas grave... Et c'est vrai que je vivais bien, quoi. C'était.
Ouais, jusque-là, tu t'en souffrais pas trop.
Il m'avait même dit, on va vous mettre un stent, mais ça peut attendre, c'est pas. Alors moi, je lui dis, non, je le fais maintenant. Mm-hmm. On va pas faire ça dans l'urgence, donc vaut mieux le faire maintenant. Alors l'intervention s'est bien passée. Mais 2 jours après, j'ai commencé à avoir des soucis de bactéries et voilà. Mais sinon, je respirais bien avec ce... Je me sentais vraiment revivre. J'étais opérée le jeudi, le vendredi, c'était vraiment super. Bon, après, ça a été, bactéries... ensuite, ça a été...
C'était vraiment... des suites de l'opération?
Non, c'est pas l'opération, en fait, c'est ma réaction à moi.
Ok.
Voilà, donc après, j'étais hospitalisée plusieurs fois parce que j'avais un staphylocoque. Et puis, donc, il m'avait mis un traitement sous antibiotiques pendant 6 mois, mais je continuais à tousser beaucoup. Je ne sais pas si tu te souviens comment je toussais.
Si, bien sûr.
Et donc, le pneumologue me dit, écoutez, on va vous hospitaliser. J'ai été hospitalisée le 14 février.
Donc ça, c'était 2018.
Alors, 2019, ça. Parce que 2018, c'était le stent. D'accord. Le 14 février 2019... ce qui m'a semblé bizarre quand même, c'est que je n'ai pas de souvenir entre le 4, alors Le 14, j'étais hospitalisée. Le 17, je me souviens de la visite de tes parents.
Ouais.
Ensuite, Claude qui est venu avec...
Claude, c'est ton mari, donc.
Oui, Claude, c'est mon mari, qui est venu avec son, on va dire, entre guillemets, son fils adoptif et sa compagne. Et ensuite, nos amis, Carole et Michel, qui sont venus. Et après ça, je n'ai aucun souvenir. Claude est venu, mais même pas des soignants. Je me souvenais même pas que j'étais dans une chambre double. Ça, je l'ai appris en discutant avec une infirmière il y a quelque temps, quoi. Mm-hmm. Je ne me souviens de rien.
Et pourtant, tu n'étais pas encore placée en coma.
Je n'étais pas en coma. Et c'est une infirmière, c'est elle qui hier m'a dit, c'est moi qui vous ai qui ai alerté tout le monde parce que je suis venue vous voir et vous respiriez mal.
Ouais.
Et à la suite de ça, alors bon, ce qui est douloureux pour Claude, c'est qu'il est arrivé, il venait me voir et ils lui ont dit, ils me transportaient en réanimation.
D'accord.
Enfin, d'abord en soins intensifs, d'après ce que j'ai appris après, et ensuite en réanimation. Mais je n'ai aucun souvenir. Par contre, oui, vas-y.
Non, c'est juste, en fait, je viens de me souvenir que tu m'envoyais quand même des messages, des petites nouvelles, des petits textos. Et je sais qu'à un moment, il n'y en a plus eu. Et je t'ai envoyé un message et tu ne m'as pas répondu. Et là, j'ai compris qu'il se passait vraiment quelque chose. Parce que j'étais loin, en fait. Donc moi, je ne savais pas. Et puis évidemment...
Oui, et ton père m'a dit aussi... Alors, je ne me souviens pas que j'envoyais des messages. Et ton père m'a dit aussi que j'envoyais des messages. C'était... des lettres comme ça.
Moi, ça, j'ai pas eu. Moi, j'avais que des...
Ta mère aussi, elle a eu ça.
Ok.
Et moi, je n'ai aucun souvenir. Par contre, dans mes souvenirs, il y a... qu'on rencontrera peut-être plus tard, je sais pas.
Mm-hmm. Bien,
ouais. J'ai un souvenir où je me trouvais chez ma sœur. Et je cherchais... J'étais toujours persuadée qu'on m'avait volé mon portable. Et j'avais un appareil, un peu comme un téléphone, mais beaucoup plus gros.
Ok.
Et ne s'affichait que des icônes.
D'accord.
Et je tapais là-dessus.
Donc tu penses que à ce moment-là, enfin quand t'as eu, parce que c'est pas, enfin t'étais pas vraiment chez ta sœur en fait.
Ça, ah non, j'ai jamais été chez.
C'était dans est-ce qu'on peut dire rêve ou je sais pas, mais donc c'était peut-être pas forcément pendant le coma artificiel que t'as fait ce rêve-là quoi.
Alors peut-être c'est ça. Avant. Je pense que les souvenirs que j'ai, ça doit être dû à des moments comme ça avant d'être dans le coma.
Ouais.
Ou au moment où vous essayez de me réveiller.
Ah oui, d'accord.
Je ne pense pas que ce soit dans le coma, vraiment. Mm-hmm. Je ne peux pas l'expliquer, parce que j'ai vraiment aucun souvenir. J'ai des souvenirs après de réanimation, mais j'étais déjà en réveil, quoi. Je me souviens de deux personnes qui me soignaient particulièrement. Mais sinon, rien.
Et donc, à ce moment-là, les médecins décident de te placer en coma artificiel, c'est ça ?
Alors, oui, ils m'ont intubée.
Ouais.
Apparemment pour que je souffre moins.
Oui, et ça a marché ça ou pas ?
Alors, j'ai quand même des souvenirs de souffrance.
Mais donc, t'étais pas consciente au moment où on t'a placée en coma artificiel ?
C'est
ton mari qui a donné son accord, c'est ça ?
Ah ben, ils ne lui ont même pas demandé son accord. Il est arrivé à ce moment-là, donc il a suivi. Mais il m'emmenait de toute façon en réanimation, quoi.
C'est... D'accord. Ouais. Donc, oui, parce que j'avais écrit une question. Comment tu te sentais quand on t'a dit que tu allais être placé en coma artificiel ? Je pense que du coup...
On ne m'a pas laissé le choix.
Probablement pour le mieux. Et donc... T'es restée dans le coma pendant, si mes souvenirs sont bons, 2 mois ?
Non, 3 semaines.
3 semaines ? Ouais, ça me paraissait long.
Alors, 3 semaines dans le coma,
ouais.
Plein. J'ai su après qu'ils avaient essayé plusieurs fois de me réveiller. Ça ne fonctionnait pas.
Et d'ailleurs, tu les sentais, les phases de réveil ? Enfin, tu sentais qu'il y avait une différence, un truc ?
Non, non, mais c'est peut-être à ces moments-là que j'essayais de... Parce que j'avais quand même une souffrance, les mains attachées.
Ouais.
Et ça, ça devait être justement quand ils essayaient de me réveiller. Est-ce que j'essayais d'enlever, que j'ai souvenir de maman ou de Benoît quand ils étaient, Benoît dans le coma et maman...
Donc ton fils et ta maman.
On essaie d'enlever tout ce qu'ils nous injectent, quoi.
C'est, ouais.
On essaie d'enlever les sondes, c'est pour ça qu'on est attaché, je pense.
Mais t'étais vraiment attachée, ouais. C'était pas juste dans ton...
Ah,
dans
je sais pas.
Ok.
Je le sentais que j'étais attachée, mais ta mère m'a dit oui, que j'étais attachée, Claude aussi. Les mains, en tout cas. Pas attachée le reste, hein, mais les mains.
Mais donc, si je comprends bien, quand t'étais dans le coma, t'étais pas consciente d'être dans le coma?
Non, du tout. Non.
Ok.
Tu dors, en fait.
Ouais.
C'est un sommeil artificiel, mais tu dors.
Et pour m'aider à préparer l'interview, tu m'as envoyé donc un fichier écrit avec tous les souvenirs que tu avais de ce qui s'était passé dans ta tête à ce moment-là. Donc, tu étais consciente que tu rêvais ou tu avais quand même l'impression que ça se passait?
Ah non, j'avais l'impression que c'était réel.
Ouais.
Je vivais.
Mais tu peux en raconter un. Enfin, si t'as pas envie, y a pas de souci. T'es pas obligé.
Ah mais non, mais ça m'amuse maintenant.
Ouais. Okay.
Parce que je trouve ça aberrant. Alors, celui où dont je me souviens vraiment, c'est que tu me parlais.
Ah mais ça c'était pas un rêve, c'était la vraie vie. Enfin, je t'ai vraiment parlé.
Oui, tu m'as parlé. Et ça, non mais ta mère aussi me parlait.
Ouais.
Claude me parlait. Mm-hmm. Tous ceux qui venaient voir me parlaient. Je n'ai aucun souvenir. Tu te rends compte, Claude qui venait tous les jours.
Bah ouais, c'est bizarre.
Alors, bon, on va y revenir pour Claude, parce que toi, apparemment, tu me parlais, et j'avais l'impression que tu étais... moi, j'étais... Je pourrais pas dire si j'étais allongée. Mais en tout cas, tu étais sous moi.
Ah ouais?
Ça faisait comme une cave voûtée.
D'accord.
Et tu me parlais... Un peu, non, comme les souffleurs de théâtre. Voilà.
Ok, d'accord.
Voilà. Et ça faisait ça. Et je me souviens que tu me disais, mamie, bats-toi, t'es forte, on t'aime, ils te soignent bien, ils te donnent à manger. Et par contre, j'ai rajouté un truc, et ça, je me souvenais plus.
Ouais.
J'étais persuadée que tu me disais qu'il fallait que je m'en sorte, qu'on allait faire la fête, parce que tu allais te marier.
Alors, qu'on allait faire la fête, je l'ai sûrement dit, mais que j'allais me marier. J'étais pas dans une relation très sérieuse à l'époque, vraiment.
Voilà.
Ok. Bon bah, désolée parce que du coup je t'ai motivée à sortir pour quelque chose qui n'est pas arrivé depuis. Pardon pour ça.
Et Claude, donc je ne me souviens pas quand il venait me voir, mais dans mes rêves, il y avait un lit, son lit était à côté du mien.
Ouais.
Il y avait son pull sur le lit, mais lui je ne le voyais jamais.
Ah ouais. Et c'était une chambre qui ressemblait à une chambre d'hôpital ou c'était une chambre qui ressemblait
à la c'était une chambre d'appartement.
D'accord.
C'était pas une chambre d'hôpital. C'était c'était marrant d'ailleurs, parce que pourquoi je suis allée chercher des trucs comme ça? J'étais attachée le jour, pas attachée la nuit. J'étais attachée dans une chambre où donc il y avait ce fameux lit. Alors quand Claude était là la nuit, je le voyais pas, mais il était là avec moi, donc ça, tout allait bien. Cette chambre, elle se transformait en la nuit en brasserie. Il y avait du théâtre, il y avait des chansons. Et c'était le même personnel, hein, le personnel qui me soignait.
Qui faisait le spectacle. Voilà.
Mais alors, non, je n'avais pas l'impression d'être dans une chambre d'hôpital, parce que je me souviens, là, ça me revient, que le personnel sonnait avant de venir me soigner.
D'accord.
Pour m'avertir qu'il fallait que je sois prête. Que,
voilà, ouais.
Savoir si j'étais chez moi. Et, pourquoi avoir rêvé ça? Comme pourquoi avoir... Alors, il y a des souvenirs. Alors, ça doit être par rapport aussi à la souffrance. Parce que j'ai un souvenir de Claude qui me déposait à l'hôpital, qui n'entrait pas avec moi. C'était pas l'hôpital à Athènes, c'était un hôpital sur Paris.
Mm-hmm.
Et il me déposait. Alors, c'était un immense, mais on traversait des couloirs. Et puis, il fallait attendre son tour. Et là, il y avait une dame qui me disait « Soufflez, soufflez !» Mais j'avais pas l'impression d'être mal, tu vois.
D'accord.
Et puis les souvenirs que j'ai aussi, alors qui sont aussi aberrants, c'est le fait de tous les soirs d'aller dans un bâtiment municipal,
ouais,
en bloquer la fermeture.
Ouais.
Et ce bâtiment, je le vois très bien dans mes souvenirs, hein, il n'existe pas dans Drancy.
D'accord.
Il n'existe pas.
Donc tu l'as inventé, quoi.
Je l'ai inventé. Et ensuite, ce bâtiment, qui aussi était un bâtiment administratif le jour, et la nuit, se transformait en salle de jeu, en théâtre, en crèche, en salon de coiffure. Et moi, j'étais venue là. Et Claude m'avait laissée parce qu'il devait partir avec le maire. Et il y avait une voiture qui devait venir me chercher. Je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis sauvée. J'avais peur. Pourquoi, j'en sais rien. Et donc là, je m'étais retrouvée, donc j'étais arrivée à Commentry chez ma sœur, où là, il y avait une fête de famille. Mmh. Et on m'a dit, mais toi, t'es pas invitée. Donc, vous étiez tous là, toi, tes parents.
Mais du coup, tu devais être super colère. Enfin, toute ta famille réunie et...
Alors oui, j'étais fâchée. Et, mais fâchée, alors... Donc, moi, je me suis retrouvée sur un bateau. Parce qu'il y avait un bateau. C'était... Alors, c'était bien la maison de, de ma sœur et de mon beau-frère. Mais dans la cuisine, t'avais un bateau amarré, une barque.
OK.
Et... dans la... Ils avaient une super cuisine moderne. T'avais la glace qui coulait à flot. Et moi, je tendais le cou pour en avoir. Mais non, j'étais privée. J'étais pas invitée. Voilà. Et eux faisaient la fête.
On ne ferait jamais ça dans la vraie vie, mamie, promis.
Vous venez me voir à tour de rôle. Et puis je disais. Alors, j'étais aussi attachée dans ce bateau.
Ouais.
Et je disais à Frédéric, mais aide-moi, fais-moi sortir. Puis je le regarde. Puis je dis, bah non, tu peux pas, t'es mort.
Mais il était là quand même, et dans ton rêve, il était...
Mais j'ai réalisé que non, effectivement, il ne pouvait pas, parce qu'il était mort quelques années auparavant.
Et donc là, tu t'es pas dit quand même, bon, là, en fait, je suis complètement en train de rêver.
Non, pas du tout.
C'était pas... Ok.
Ah, mais...
C'était ton quotidien.
C'était la vie, et...
Et t'as déjà pensé que peut-être les rêves que tu faisais à tel moment, c'est parce qu'il se passait telle chose au même moment dans ta chambre, et t'en étais pas consciente?
C'est possible. Mais pourquoi rêver de bateau? J'ai pas arrêté de rêver de bateau. Quand on m'a soi-disant volé mon portable, j'étais dans une barque. J'avais le téléphone à la main. On était au port. Hein. Et il y a une dame, une grecque. Pourquoi elle était grecque? Une vieille dame en solex, grecque, qui passe et qui me vole mon portable et qui me regardait avec... Elle était édentée, puis elle riait de... Pourquoi ça je...
C'est bizarre. Mais dans ces moments-là, il y a eu des moments où tu étais en danger?
Je ne sais pas.
Il y a pas... Enfin...
Il y a eu 10 jours où j'étais en danger, oui.
Oui, bah, c'est ça.
Pronostic vital était engagé. Mais je ne sais pas.
Il y a une métaphore avec le fleuve et tout, mais je ne suis pas assez calée en mythologie pour...
Après, j'étais aussi sur un bateau. Et là, j'étais debout. Il y avait Anne-Marie et Hans et Claude sur le même bateau.
Donc, ton mari et des cousins.
Mais on ne pouvait pas communiquer parce que moi, j'allais dans un sens et eux dans l'autre.
Ouais, OK.
Et là, c'est pareil, ça s'arrête là. C'est, il y a eu des flashs comme ça. Je ne sais pas.
Et c'est une question que je me suis souvent posée au sujet des gens qui avaient des expériences de coma artificiel ou non. Est-ce que le temps il passe à la même vitesse ou est-ce que le temps il paraît plus long ou plus rapide?
T'as pas de notion de temps.
C'est pas du tout une notion qui existe.
Non, t'as pas de notion de temps.
Ouais.
T'en as après au réveil. Ça te semble très long.
D'accord. Les journées te semblent plus longues au réveil.
Oui, au réveil. Mais pas. Non, quand t'es dans le coma, t'es vraiment. Tu n'existes plus.
Et en même temps, tu vis plein de choses.
T'as une vie
imaginaire hyper riche, quoi.
Parce que dans les rêves, il y a aussi le fait ton cousin était venu voir avec ses copains, hein, il y avait tes parents. Je devais changer de service.
Ouais.
Alors ça devait être dans la phase où j'étais réveillée, tu vois ça.
D'accord.
Parce que je devais changer de service, donc ce qui était vrai, parce que je retournais.
Ouais, donc tu commençais à être consciente.
Voilà. Et on était dans un hall. Et le numéro des chambres libres s'affichait.
Mmh.
Mais je voyais les cloisons bouger, tu vois, pour me faire ma chambre.
D'accord.
Il fallait un code. Mais t'as un temps fou pour avoir le code. Quand on avait le code, il était plus valable.
C'est une critique de l'administration hospitalière, en fait, que tu nous as fait.
Bah, je pense pas, parce que... ils n'ont pas besoin de code pour... Non. Quand il y a des cas graves, ils savent tout de suite trouver les solutions. Non, mais c'est vrai. Ils sont... Alors, j'ai fait plusieurs services hospitaliers, mais celui-là, il est vraiment aussi bien réanimation que le service chirurgie thoracique. C'est vraiment... Si tous les services étaient comme ça, en milieu hospitalier, on ne craindrait rien.
Ouais, en plus, t'étais un peu la star des services où t'étais. À chaque fois que je venais te voir, les infirmières étaient aux petits soins. Tes premières fans, quoi, un peu, non ?
Mais je pense pas que ce soit particulier à moi.
Non, c'est... Ouais, ok.
Elles sont avec, comme ça avec tout le monde. Franchement, non, c'est...
Tous les patients, c'est leur star, quoi.
Oui, oui, oui. Ils les considèrent tous... Parce que... J'y ai quand même passé beaucoup de temps.
Ouais.
Après le coma, et puis après plusieurs fois... Et non, ils sont comme ça avec tout le monde. Très agréables, toujours dispo. Alors ça, je leur en suis vraiment reconnaissante parce que, bon, quand j'arrivais, alors bien sûr, après le coma, et quand j'arrivais, quand je faisais une infection, quand j'avais un granulome, quand j'avais, j'y allais quand même tous les mois, donc j'y passais au moins une semaine tous les mois, voire 15 jours. Et non, franchement, quand j'avais pas le moral, elles étaient. Pourtant. Je sais que les chambres étaient toujours pleines et que leur temps est compté, mais elles ont toujours été... Je me souviens, par exemple, alors des infirmières toutes, mais la responsable, pas l'infirmière en chef, qu'est-ce qu'elle est ? Cadre de santé, qui prenait le temps de venir me voir, de discuter, même la gérontologue, toutes, tu vois, elles... Quand j'ai commencé à manger, parce que bon, au début, j'étais perfusée, après, c'était mouliné... Ensuite, j'ai recommencé à manger normalement. Elles étaient là à assister, voir comment ça se passait. Franchement, faites ci, faites pas ça. Non, c'était vraiment un super service.
Et ouais, il y a une question que je me posais pour revenir sur le coma artificiel. Toi, tu n'as jamais expérimenté le truc de mort imminente, le grand
non,
tunnel
ça, t'as, non,
ou
non,
le,
non.
la lumière blanche
Non, la lumière ça. Blanche, non, du tout. Non. Non, j'ai jamais. Non, c'est ça m'a justement. C'était une... quand j'ai vraiment réalisé. C'était une des premières questions que je me suis posée. Et non, j'ai pas vu ça. Non. Bah, donc j'avais pas de mort imminente.
Tant mieux. Nous t'es assez avoir les
Ceci dit,
les pétoches à l'extérieur, nous donc.
Le chirurgien m'a quand même dit que j'étais une miraculée.
C'est vrai.
Oui. Oui.
Il était pas, ouais, il était pessimiste.
Ils ont tous été pessimistes à un moment.
Ouais.
Mais je le dis, c'est. En fait, j'ai souffert après le coma, parce que bon, t'avais encore ces problèmes respiratoires quand même.
Ouais. C'était pas réglé quoi.
Alors si, quand même, avec la trachéotomie. Et ça, c'est pareil. C'est un truc, tu vois. On m'aurait dit, madame, on va vous faire une trachéotomie. J'aurais dit, c'est pas possible, vous n'allez pas me faire ça. Et quand j'ai commencé, après, quand j'ai commencé à me laver seule, je me regarde dans la glace, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un nœud papillon. J'avais pas réalisé que j'avais ce trou dans la gorge. Et tout de suite après, j'ai compris. Et j'ai pas eu, tu vois, je me suis pas énervée en disant, c'est pas possible. Non, j'ai accepté, tout naturellement. Me connaissant, c'est quand même... Donc, je pense qu'il y a quand même une sagesse qui... tu acceptes les choses, finalement.
Ouais, une résilience,
oui.
Comme on dit.
Oui.
Et est-ce qu'au moment où tu as commencé à te réveiller, tu as senti, peut-être pas forcément un déclic, mais une sorte d'impulsion pour sortir du coma, un truc... Enfin, est-ce que tu t'es...
Je pense, je ne l'ai pas senti. Mais je pense que si j'en suis sortie, c'est que j'ai eu cette réaction.
Ouais.
Ben oui.
Tu ne peux pas mettre de mots dessus, quoi.
Je ne peux pas, non. Non.
Je comprends.
Non, je peux pas. Je sais que... Alors, j'ai quand même eu un déclic parce que... les premiers jours où j'étais réveillée, bon, je somnolais encore parce que... Et il m'avait assise dans un fauteuil où je devais rester toute la journée. Et c'était dur. Et je voulais à tout prix retourner au lit. Alors, je me suis quand même battue. Moi, je me souviens, mes anciennes collègues étaient venues me voir et il y en a une qui m'a dit « Je n'oublierai jamais ton regard. » Mauvais.
C'est vrai.
C'était pas la Marie-Paul que je connaissais. Bon, finalement, ils m'ont recouchée. Mais ça a été un déclic. Le lendemain, c'est moi qui ai demandé à aller au fauteuil. Parce que j'ai dit « Bah oui, il faut pas rester couché tout le temps. Il faut... » Voilà.
Est revenue, quoi.
Ça a été là, le déclic.
Et après ça, il y a eu des séquelles ou...
Alors, il y a eu, forcément, quand on est intubé, 3 semaines, enfin, Oui, pendant plus de 3 semaines. je ne savais pas manger toute seule. Je ne parlais...
Parce que tu savais pas tenir la fourchette.
Je ne pouvais pas tenir la fourchette.
Ok.
Je ne pouvais pas couper, je ne pouvais pas... Ben, si tu savais les difficultés... Alors bon, au début, ce sont eux qui me faisaient manger. Et après, j'ai voulu manger. Ouais. Mais si tu savais les difficultés... Et puis, je m'en mettais partout. Je mangeais à la cuillère et j'arrivais pas à trouver la bouche. Mm-hmm. Donc, il y a eu ça. Il a fallu réapprendre à manger, réapprendre à parler. Parce que je commençais... J'avais des mots, je disais des phrases, je ne les finissais pas... Par moments, c'était incohérent. C'était... Mm-hmm. Et Claude a eu peur à ce moment-là parce qu'il s'était demandé si ça allait rester. Le médecin lui a dit non, ça va évoluer.
Oui, bien
mais
sûr.
Bon, ça va évoluer, mais personne ne savait comment.
Pendant combien de temps oui. Et puis, oui.
Et puis, finalement, c'était rapide.
Oui, c'est vrai que ça a été...
Ça a été assez rapide. Je me souviens toujours ton père qui était venu me voir quand j'étais encore en réa.
Ouais.
Et quand ils sont venus... Donc, j'ai dû rentrer un mercredi, je crois. Et ils sont venus le dimanche. Oh, il m'a dit, oh là là, les progrès que vous avez faits. Bon, et allez, j'étais pas encore... je marchais pas encore quand ils étaient venus. Mm-hmm. Mais la semaine suivante, quand ils sont venus, je marchais. Enfin, je marchais. Difficilement, mais je marchais. Et ça, c'est... ça, je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu de kiné après la... Parce que bon, l'objectif, justement, parce que comme il n'y avait pas de kiné sur l'hôpital, ils étaient vraiment en manque, ils étaient deux pour tout l'hôpital à cette époque-là. Après, ils ont embauché. Et je dis ça parce qu'après, comme j'étais opérée, j'ai eu des séances de kiné. Mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. Donc, c'était, j'attendais que Claude arrive et il me faisait marcher dans le couloir. Mais il fallait voir, c'était une grand-mère. Hein.
Bon, je suis une grand-mère. Tu es une grand-mère.
Je suis une grand-mère, vu mon âge.
Depuis 31 ans environ.
Une mémère. Je marchais à pas lents. Et... Alors ensuite, quand ça commençait à aller mieux, j'ai demandé à ce qu'on me donne un déambulateur. Mm-hmm. Pour pouvoir marcher toute seule. Alors au début, je marchais vraiment avec le déambulateur, le posais. Puis après, je le soulevais et dans le couloir, je rencontrais les soignants qui me disaient « Mais non, mais c'est pas comme ça !» Mais je sais très bien que c'est pas comme ça.
C'est vrai que ça n'aurait pas de logique sinon.
Mais c'est une sécurité pour savoir si jamais
ouais,
j'ai un malaise, je peux poser le déambulateur et je ne tombe pas.
Et t'as jamais été découragée à l'idée que ça aille pas assez vite parce
non.
Que...
non. Non. Tu vois, ça,
Parce qu'en plus, ça a été très rapide, en fait, mais te connaissant...
Le professeur m'a posé la question, est-ce que vous avez douté ? Non, j'ai jamais douté. Parce qu'en fait...
C'est beau, ça.
Tu vis au jour le jour.
Ouais.
C'est pas seulement que c'est beau, c'est... Tu vis pas de la même façon que je vis maintenant, par exemple. Quoique je vis toujours au jour le jour. Mais c'est... Non, tu t'adaptes, tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, c'est comme ça, on va voir, c'est... Non, j'ai pas douté.
Certaines personnes qui ont été placées en coma artificiel pendant plus ou moins longtemps, elles ont eu du mal à dissocier le rêve de la réalité. Est-ce que ça a été ton cas ? Après, je veux dire, après le réveil ?
Non. Non, j'étais dans... Non. Après, j'étais dans la réalité. Mmh. Tiens, me revient une chose... Quand on parlait de trachéotomie, j'ai rêvé ça aussi. Qu'on était sur une île avec Claude.
Ouais.
Et j'étais un peu souffrante. Donc, le médecin avait dit, votre femme est déshydratée et elle a un problème. Il faut qu'on lui fasse une trachéotomie. Alors, la trachéotomie, c'était un cône en carton, comme les poupées... Les surprises pour les enfants, tu vois.
Oui, d'accord. Voilà,
c'était ça que j'avais.
Comment ça s'appelle, les boîtes à surprises
C'est pas une boîte à surprises. Je sais plus.
Bah attends, je peux retrouver ça. Vas-y, continue l'histoire, je vais retrouver le mot.
Et donc, le cône était en carton, était dans ma gorge.
Ouais.
Mais alors là, ça sortait de ça. Hein. C'était pas,
donc là, tu montres à peu près 10
cm. 10 cm, ouais, 10 bons centimètres. Hein. Tu parles un cône en carton.
Ah, c'est des pochettes surprises.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
C'était un peu ça.
Oui, c'est assez conséquent quand même. Pour... Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe, la trachéotomie, heureusement.
Non, c'est plus discret.
Donc,
c'est
ouais.
Plus discret, mais n'empêche que ce que t'as à l'intérieur, ça fait quand même 10 cm.
Ah ouais.
Oui, j'ai vu quand ils l'ont sorti.
Ce que t'as, donc là, ils te font... Parce que la trachéotomie, c'est un trou qu'on fait au niveau de la trachée.
Ils te mettent, oui, un cône. et tu as une partie qui se détache pour pouvoir la nettoyer.
D'accord. Et donc, c'est ça qui t'aidait à respirer.
C'est ça qui m'aidait à respirer. Et donc, j'ai eu, là, j'ai eu une canule fermée, ce que j'avais en sortant du coma. Mm-hmm. Où là, alors vraiment, tu as des difficultés à parler. Mais j'arrivais à parler quand même. Et ça, ça les épatait.
Ouais.
Et tu avais la canule ouverte. Et là, où on peut parler normalement. Je pense que je devais peut-être avoir la voix un peu cassée. J'en sais rien. Je m'entendais pas. Ouais. Et par contre, cette canule est très bien. C'est beaucoup plus simple. Mais ça crée ce qu'on appelle des granulomes. Ça fait des bourgeons.
Mm-hmm.
Qui se logeaient dans le trou de la canule, justement. Et tu pouvais plus respirer. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai eu les deux.
Tu as eu tout le paquet. Enfin, tout le paquet.
Ah bah, j'ai testé. Bah, il faut tester tout.
Oui, bien sûr.
Il faut être curieux dans la vie.
On n'a qu'une vie, après tout. comment tu vois cette période maintenant que tu en es sortie? Toute la période... Enfin, est-ce que tu t'estimes sortie de... Bah, pas seulement du coma, mais de tous tes séjours à l'hôpital?
Alors, sortie, j'en suis pas toujours, tu vois, parce que parfois, j'ai des sécrétions qui sont un peu... pas blanches, qui sont un peu colorées.
Ouais.
Donc, ça me fait un peu peur. Mais, par contre, alors, c'est pas après le coma que j'estime que j'en suis... Moi, je dirais quand même entre guillemets, hein, sortie. C'est depuis l'opération qu'il m'a faite en novembre.
En novembre, oui.
Il m'a reconstitué la trachée, il a mis des bandelettes pour rehausser les poumons. Et là, c'est vraiment...
Tu revis, quoi.
Ah oui.
Tu dis que tu n'as jamais eu de doute, mais tu étais quand même inquiète pour cette opération, non?
Ça pouvait m'arriver. Avant l'opération?
Tu as voulu qu'on fasse une petite réunion de famille avant, oui, tout ça.
Oui, c'était pas avoué, tout ça aussi.
Quoi?
Je voulais, mais je ne m'avouais pas que c'était au cas où, oui, il m'arriverait quelque chose. D'accord. Tu vois. Okay. C'était, et ouais, c'est vrai.
Je suis pas bête. Hein.
Moi, depuis l'opération, bon, à part parce que j'ai chopé un truc au mois de janvier, enfin à Noël, ça m'a reposé des problèmes. Mais sinon, ça va, quoi. J'ai fait un test d'exploration fonctionnelle respiratoire vendredi. La soignante m'a montré... elle me dit, je peux vous montrer oui. Alors, elle me dit, voyez en bas, c'est le test qu'on avait fait l'année dernière avant l'intervention.
Mm-hmm.
Une ligne plate.
Ouais.
Peut-être un peu, toi, un décroché de temps en temps, mais vraiment... Par contre, là, d'abord, j'étais au moins... plusieurs centimètres au-dessus.
D'accord.
Donc, je ne connais pas encore. J'ai su que lors du premier test, j'étais à 44% de fonction respiratoire. Là, je ne sais pas ce qu'on va me dire dans un mois, mais je pense nettement au-dessus. La courbe est beaucoup plus élevée. Quand je soufflais, tu voyais vraiment.
Ouais, il se passait
ça montait,
quelque chose,
c'était, ça montait de ça, tu vois. C'était, l'opération est réussie. Non, ce qui me fait peur un peu maintenant... Bon, quand je suis sortie de l'hôpital, je suis sortie le 9 mars, j'ai dit, oh, enfin, on va pouvoir sortir. Bon, Covid.
Oups.
Bon, maintenant, je suis obligée de sortir avec le masque. C'est ça qui me fait peur. Ça me fait peur, par contre.
T'as peur du Covid?
Oui.
Enfin, de la Covid?
Bah, des conséquences que ça pourrait avoir.
Oui, bien sûr.
C'est pas... voilà, c'est...
C'est vrai que je suis toujours un peu réticente à l'idée de venir te voir, alors que j'aime beaucoup te voir.
Bah, oui, je sais. Mais ouais. Moi aussi, j'aime bien voir tout le monde. Et c'est vrai qu'on s'est un peu isolés.
Bah, y a pas le choix, hein.
Bon, on s'est isolé les mois précédents à cause de la maladie, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait rien prévoir.
C'était... Et puis là, parce que tu es à risque.
Ben, je suis à risque. Ben, non seulement je suis âgée, mais je suis malade. Donc, mais je n'ai jamais... Il n'y a pas longtemps que j'ai pris conscience que j'avais été gravement malade. Il n'y a pas longtemps.
C'est vrai?
Oui. Il n'y a pas longtemps que j'en ai pas conscience.
Et comment tu as pris conscience de ça?
Ben, en faisant le schéma de tout ce que j'avais subi, quoi. Parce que même le coma, je ne m'étais pas dit, t'es gravement malade, tu vois. Mm-hmm. Parce que ben, tu peux avoir le coma, tu peux être en coma. Les gens qui ont le Covid, qui ont des problèmes dus au Covid, ils ne sont pas forcément malades. C'est l'âge, ça peut être un tas de choses qui provoquent qu'ils soient mis en coma artificiel. Mais Non, j'avais pas l'impression d'être vraie. Mais même hein, quand je suis sortie de la fibro, qu'il m'a dit c'est grave, enfin c'est important. Là, j'ai dit à Claude, ah bah dis donc, je vais t'en apprendre une. Hein. Là, je savais que c'était important, mais pas grave. Voilà.
Ok.
Peut-être que c'est une façon de me rassurer. Hein.
Je pense, ouais, c'est peut-être une façon de prendre de la distance sur la maladie et sur la peur que ça peut provoquer. T'aurais peut-être pas eu la même expérience si t'avais été plus consciente de la gravité de la situation.
Mais je l'aurais peut-être mal vécu déjà.
Exactement.
Donc.
Justement, est-ce que tu te sens changée par cette expérience ? Est-ce que t'as l'impression d'être différente, que ça a changé quelque chose pour toi ou dans ta façon de vivre ?
Alors, ça, il y a des choses qui changent, oui, parce que j'accorde beaucoup moins d'importance aux choses superficielles. Mm-hmm. Mais ça, c'était déjà un peu, parce qu'avec le coma de Benoît, je l'avais quand même vécu 3 fois.
Donc oui, ton fils a été dans le coma 3
donc, reprises. Déjà, tu prends du recul, tu vois les choses. Mais non, là maintenant, c'est vrai, je suis, entre guillemets, je veux dire que je suis plus facile à vivre. Faut demander ça à Claude.
Tu t'es à sa vie.
Bah, t'as pas le choix.
J'imagine.
T'as pas le choix. Bon, et puis il y a l'âge aussi, hein, c'est pas...
Ouais. Bah, toutes les expériences de la vie font que, j'imagine, on
est... Bah, j'en ai eu pas mal d'expériences quand même, parce que quand j'y repense, j'ai quand même eu des choses... je me souviens de l'année du mariage de tes parents, j'avais ce qu'on appelle un torticolis spasmodique. Pareil, comment soigner ça ? Personne ne le savait. Et alors, je me souviens avoir été à Amiens, à l'hôpital, et il m'avait dit... il m'avait posé des tas de questions, j'avais été filmée, passée à la télé, avec tout autour de moi des étudiants. Mm-hmm. Et peu de temps après, ils m'ont demandé si... Ils m'ont proposé une opération. J'ai refusé. D'accord. Alors, torticolis spasmodique, c'est quand même assez... c'est surprenant, tu vois. T'as le cou tordu, comme ça, et puis tu bouges sans arrêt. Ouais. Et j'ai refusé. Je sais pas pourquoi j'ai refusé. Peut-être par peur, j'en sais rien.
Ouais.
Et j'ai commencé des cures thermales. Et puis, donc, je me souviens, c'était ta mère qui m'avait emmenée à l'hôpital d'Amiens. Il y avait le médecin qui me suivait à l'époque, qui était tombé sur un article de médecine qui disait qu'il y avait un kiné à l'hôpital d'Amiens qui soignait les torticolis par de l'acupuncture.
D'accord.
Alors, on est allé le voir. Et au début, il m'a dit, ah non, non, il dit, moi, je soigne le torticolis banal. Le vôtre n'est pas banal du tout. Alors, je lui dis, écoutez, j'ai tout essayé. C'est vrai qu'on avait tout essayé. T'es allé voir des ostéopathes, des machins, tout.
Et ça a duré combien de temps ?
2 ans.
Wow. 2 ans de ça ?
Oui.
Non-stop ?
Pratiquement. Oh ! C'est arrivé en 83 et j'en suis sortie le 15 juin 1985, ça je me souviens de la date.
Ouais.
Je me réveille et j'avais la tête droite.
Waouh.
Oh, j'étais heureuse. Alors tu vois, bon, mais ça sur le moment je me suis dit bon c'est vrai, j'en sors, c'est bien. J'ai eu peur que ça revienne. Voilà, donc j'ai toujours eu des spécificités, on va
dire. Des aventures humaines, on va dire. Voilà. Et tu dirais quoi à la toi d'avant le coma artificiel pour soit la rassurer ou la prévenir
De prévention, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de prévention à avoir pour ce qui peut t'arriver. Pour la prévenir, je dirais Marie-Paul... Continue à vivre comme tu l'as toujours vécu, finalement.
Ouais.
En étant, bien sûr, plus... En prenant beaucoup de précautions. Mmh. Et j'en prends même un peu trop, je dirais, des fois, mais bon.
Prendre trop de précautions. J'ai peur, assez.
En fait, j'ai peur des gens que je croise dans la rue.
Ouais.
Tu vois, les gens qui mettent pas de masque, j'ai envie de leur foutre des baffes.
Ouais, je veux bien leur foutre des baffes, si tu veux. Hein. Pas de souci.
Parce que, bon, on est allé en vacances, c'était quand même une période où c'était des personnes plus âgées, mmh. La plupart étaient retraités, ceux qui étaient là, ou avec des enfants bas âge ou sans enfants. Mais encore ceux-là, ils mettaient des masques, j'ai remarqué les jeunes. Mmh. Mais t'avais des personnes âgées, non, pas de masque. Alors il y en a qui l'avaient au poignet.
C'est pas là que ça protège.
En fait. Et non, mais parfois pas du tout. C'est quand même une... Alors moi, où je suis pas vraiment pas d'accord avec les anti-masques, c'est une prévention. Il faut essayer de continuer la prévention. À moi, qu'est-ce que je dirais? Ben, je dirais... Bon, finalement, t'es quand même assez forte.
Et puisque je te le dis,
continue comme ça.
Je dirais aussi quand même que j'ai eu la chance d'être bien entourée. Mm-hmm. Que si j'avais pas été entourée comme je l'ai été, je n'aurais pas pu d'ailleurs rester chez moi, déjà une. Au départ, ils voulaient me mettre dans un service de réhabilitation. Il n'y avait pas de place. J'étais acceptée, mais il fallait une chambre seule parce que j'avais une trachéotomie et il n'y avait pas de chambre seule. Donc, on a fait la rééducation nous-mêmes. Et finalement, je n'avais pas besoin d'aller là-bas. Mais si j'avais été seule, ici, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien porter. Je ne pouvais,
ouais.
Je pouvais pas laver. Je peux toujours pas passer l'aspirateur. Parce que à cause de la poussière. Non, c'est... À moi, je dirais, tu dois dire merci aux autres. Si vous n'aviez pas été là tous, non.
C'était la chose la plus naturelle au monde.
Oui, non, mais ça, je le pense. Sincèrement que vous le pensez. Mais ça m'a beaucoup aidée.
Bah, merci, mamie.
Merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du Déclic. Merci à Marie-Paul d'avoir bien voulu témoigner. Et merci au personnel soignant de prendre soin de nous et des gens qu'on aime. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Déclic. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application d'écoute de podcast préférée, à nous mettre 5 étoiles et un commentaire, et à aller découvrir, si ce n'est pas déjà fait, la chanson et l'apéro, nos 2 autres formats. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.